Éloge du savoir. Colloque de Bruxelles. De la transe à l'hypnose, une émission proposée par Michel Cazenave.
Après nous être avancés durant les deux derniers jours assez profondément dans les phénomènes chamanistiques, aujourd'hui avec Benoît de Charneux, professeur de religion grecque à l'Université libre de Bruxelles, nous revenons vers notre propre culture. Nous revenons vers notre propre culture en faisant le lien en quelque sorte avec ce qui nous a été exposé sur l'initiation dionysiaque, mais là beaucoup plus dans le cadre de la Rome antique, au moment où, on le sait, en gros, le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, en quelque sorte, les religions orientales ont déferlé sur ce qui était alors la capitale du monde, et des religions orientales qui, précisément, étaient marquées par un aspect extrêmement prononcé de mystère, en même temps par des pratiques qui sont des pratiques de possession par les divinités ou par les esprits. Et c'est à cette origine directe de notre propre culture que nous sommes ainsi conduits à travers un exposé qui essaie de nous faire comprendre comment, d'une certaine manière, par rapport à un peuple qui était d'abord un peuple de juristes, un peuple de soldats, un peuple de bâtisseurs, comment donc le monde bascule, va entrer dans une nouvelle ère qui prépare bien entendu celle du christianisme qui, quelques siècles plus tard, sera triomphant, mais dans une ère où précisément on voit se répandre ces recherches d'état modifié de conscience dans lequel l'homme expérimente quelque chose au-delà de sa condition et qui bien entendu répond en même temps à ce qui, à travers les millénaires, a été parmi ses angoisses les plus profondes.
Depuis que nous comptons dans notre domesticité des nations avec leurs rites disparates, leurs cultes exotiques, ou pas de culte du tout. Ce ramassis bourbeux ne peut être endigué que par la crainte. Cette parole ne fait pas partie du programme électoral de Jean-Marie Le Pen, comme vous auriez pu le croire. C'est le propos d'un sénateur romain au 1er siècle, qui, comme vous avez cru le deviner, était plutôt du genre conservateur, qui s'inquiète par rapport au déferlement à Rome, et d'ailleurs en Italie en général, d'une série de cultes qu'on maîtrise très mal, qui ne font pas partie de sa spiritualité propre, qui déferlent dans Rome et créent pour lui, apparemment, la confusion. Comment est-ce que les anciens traitaient ce type de cas? Eh bien, à Rome, il y a un collège de spécialistes. Les Romains avaient un petit côté très belge. Quand il y avait un problème, ils l'en commissionnaient. Et donc, il y a une commission de spécialistes qui est un collège. Et ce collège a pour mission de scruter les livres sacrés, les livres sibyllins, qui auraient été achetés par Tarquin le Superbe, roi, dernier roi de la dynastie des rois avant la République, à une prophétesse d'Apollon. Et ces textes sacrés, contrairement à une tradition tenace, il n'y a pas que des livres sacrés dans les monothéismes, ces textes sacrés sont supposés contenir le devenir de Rome. Mais ils sont à ce point complexes qu'il faut évidemment des gens pour les interpréter. Et donc ces devins ont pour mission, ce collège de 15 hommes a pour mission de comprendre ces textes et de voir comment réagir dans une situation anormale en fonction de l'anticipation de l'oracle d'Apollon sur la destinée universelle de Rome. Donc c'est un travail d'exégèse. Le deuxième pouvoir de cette commission, c'est un pouvoir que l'on appelle en latin d'interprétatio, c'est le pouvoir de traduire les noms de déités exogènes à la latinité en latin. Et puis ce collège a un troisième pouvoir, c'est pour ça que j'en parle surtout ici, parce qu'il va intéresser, je crois, les anthropologues, qui est un pouvoir qui, pour les anciens, est exorbitant. C'est un pouvoir d'évocation. Donc ce collège a le pouvoir de convoquer les divinités au moyen de certains rituels qui, bien évidemment, nous sont inconnus, puisqu'autrement ce serait trop simple et je ne pourrais pas faire d'exposé aujourd'hui. Ce pouvoir des Wakasu se ventile en deux branches. Première branche, c'est convoquer une déité étrangère à Rome, appartenant à un royaume ou une région amie, et l'intégrer dans le panthéon romain. Et puis cette commission a un pouvoir supplémentaire. Et c'est là, évidemment, que jalousement elle le conserve. Elle a le pouvoir de contraindre, moyennant certains rites, une déité ennemie de Rome à entrer dans le panthéon romain. Deux moments vont être hautement significatifs. Et c'est, je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire de Rome ici, bien sûr, mais deux moments vont être hautement significatifs. Ils sont, au fond, le début de ce qu'on aurait appelé, faute de mieux, il y a encore quelques décennies, d'un syncrétisme romain. -204, l'arrivée de la grande mère Cybèle à Rome, et -186, Madame Acker a très légèrement esquissé le propos, c'est l'affaire des Bacchanales qui va nous retenir quelques instants. En -204, depuis un an, Rome est en danger. Hannibal est en Campanie. Les armées romaines ont vécu une série de désastres. La bataille du Tessin, la bataille de la Trébie, la bataille de Trasimène, la bataille de Cannes. Il y a des morts dans chaque famille de la République. Jamais Rome n'a été autant en danger. C'est l'époque, pour ceux que ça intéresse, où les confréries féminines font la grève du zèle et bloquent les carrefours dans Rome. Enfin, on est vraiment dans une époque de déstabilisation, vous vous imaginez, pour les Romains. Voilà, les femmes qui veulent prendre le pouvoir, c'était l'annonce de la fin de la ville éternelle. -204, les devins ont observé dans ce qui reste des lambeaux de la République des signes anormaux. Des pluies de météorites. Des animaux monstrueux sont nés pendant l'année. Les récoltes sont quasiment inexistantes, de sorte qu'à la guerre se combine la famine. Dans un moment où manifestement les dieux sont en train de quitter Rome, le collège dont je vous ai parlé se réunit. Et scrutant les oracles sibyllins, pense qu'il faut annexer à Rome la déesse de Pessinonte, Cybèle, la grande mère, et cette déesse, son sanctuaire et son collège de prêtres, sont sous la juridiction religieuse du roi de Pergame, Attal, qui est un allié de Rome. La question est politique, et c'est la déesse qui va trancher. La déesse se manifeste par des tremblements de terre et des songes, et des songes qui vont frapper le roi Attal lui-même. Elle lui dit qu'elle accepte de venir à Rome. Elle dit « Rome est digne de devenir le rendez-vous des dieux ». Et lorsqu'il a ce songe, le sol tremble, et tout son royaume sait que quelque chose d'exceptionnel s'est passé. Et elle dit qu'elle peut partir et qu'elle restera des nôtres, hein, donc du royaume de Pergame, car Rome se réclame de descendants d'ancêtres phrygiens. Et donc c'est en grande pompe que ces prêtres, enfin une délégation de ces prêtres, chargés de fonder une sorte de couvent de Galles à Rome, sur un bateau et escortés par toute une troupe, vont arriver en rade d'Ostie, où Rome attend fumigation dans toute la ville, état de prière constant, méditation. Chaque citoyen a mis sur son seuil les divinités qu'il juge opportunes pour accueillir la déesse, et l'oracle est formel, seul, de main de femme en main de femme, la pierre doit remonter jusqu'à son temple. Et donc les femmes font un long cortège qui va depuis le Capitole, parce qu'il n'y a pas encore de temple, donc on va l'héberger là où sont tous les dieux en attendant, forment une sorte de long cortège jusqu'à Ostie, donc c'est loin, hein. Et l'oracle dit que l'homme le plus digne doit être le premier à toucher la pierre, et l'homme le plus digne, mesdames, sachez-le, s'appelait Scipio Publius Nasica. Et donc, il était là, en rade d'Ostie, le bateau arrive. Alors, il doit être le premier à monter pour aller prendre cette pierre et la donner à la suivante, etc. Et déjà un miracle. Le bateau s'ensable. Une femme prend son écharpe, elle touche le bateau et le bateau se désensable. Premier miracle. Et c'est pas n'importe quelle femme, bien sûr, c'est une femme qui avait été calomniée quant à sa vertu. La déesse reconnaît les siennes, elle reconnaît les femmes qui vont porter la pierre jusqu'au Capitole, et elle rétablit déjà la justice. Publio Scipius Nasica monte sur le bateau, il prend la pierre, et de main en main, la pierre noire remonte jusqu'au Capitole. Les Romains sont très contents, mais tout de même une rumeur court déjà. Les prêtres de Cybèle sont des eunuques, ce sont des invertis, et donc on les accepte, mais qui restent dans leur sanctuaire, et d'ailleurs on les y a cantonnés pendant 2 siècles. On est ouvert, on est tolérant, mais il ne faut pas exagérer. En 186 avant notre ère, a lieu l'affaire des Bacchanales. Alors l'affaire est tout à fait particulière, parce qu'il existe évidemment en Italie un culte de Dionysos. Mais ce qui crée tout le problème, je vais revenir là-dessus, ce n'est pas le fait que ce soit le culte de Dionysos, c'est qu'il se passe des choses bizarres lorsque le culte de Dionysos se réunit à Rome depuis un certain temps. D'habitude, les mystes se rencontraient, ils pratiquaient l'orgie, buvaient du vin, les femmes pratiquaient leur rite entre elles, la sexualité n'était pas débordante dans le culte de Dionysos comme on a voulu l'imaginer, projetant nos fantasmes et surtout nos inhibitions sur l'Antiquité, et donc tout se passait très bien. Mais en 186, une affaire éclate. Et cette affaire, c'est qu'un bon garçon d'une bonne famille, fils du chevalier Aibusius, a failli entrer dans le cénacle de Dionysos et, heureusement, a été sauvé par une femme tout à fait obscure qui s'appelle Hispala, qui est une affranchie, et qui l'a mis en garde, c'est sa maîtresse, contre ce culte auquel elle a appartenu, contrainte et forcée en tant qu'esclave jadis, et où il se passe des choses abominables. Et le consul Postumius va prendre des choses extrêmement au sérieux sur plainte et va enquêter sur le culte de Dionysos à Rome. Et il va découvrir des choses que tout le monde savait certainement, mais pas lui, qui vont l'amener à une répression extrêmement violente. Puisque, on l'a évoqué, 7 à 8 000 personnes vont payer de leur vie leur appartenance au culte de Dionysos dans toute l'Italie. Qu'est-ce qu'il leur reproche ? Eh bien, il leur reproche un crime de machinae illegatos, donc de machination illégale. Il leur reproche d'être enlevés par les dieux, c'est intéressant, raptos ad dies, donc enlevés par les dieux, en dehors du contexte où ce type de rites peuvent se pratiquer. Et il leur reproche quelque chose qui est très intéressant, il leur dit, vous formez un Alterum iam prope populum, un peuple à part, en marge de quoi? En marge du populus romanus. C'est les deux moments fondateurs de l'entrée des, ce que nous appelons nous, avec notre regard, des sociétés à mystère dans la Rome traditionnelle, -204, -186. Et tout ce qui suit jusqu'à l'avènement du christianisme, du point de vue religieux, c'est une bataille systématique pour savoir qui est digne d'entrer dans la cité et qui ne l'est pas. Et vous allez voir que c'est une bataille qui touche aussi bien les chrétiens d'ailleurs que les polythéistes. Car du point de vue romain, quel point de vue dominant, ne nous mettons pas du point de vue de quelques personnages qui vivent à ce moment-là en Judée, il y a deux choses qui intéressent, du point de vue philosophique, c'est la théocosmologie et la sotériologie. Pour les anciens, religion et mystère, ça veut rien dire, parce que pour toutes les religions ont leur mystère dans l'Antiquité. Les anciens opposent deux catégories, la religio, traduit, hein, le culte officiel, et l'externa superstitio, c'est-à-dire les cultes extérieurs qui ne sont pas reconnus officiellement. C'est ça qui pour eux est la catégorie opérante. Et tous ceux qui ne sont pas dans la religio demandent à être reconnus. Et les anciens ne les reconnaissent pas facilement. Et donc toute la bataille va s'opérer évidemment sur ces critères de sélection entre religio et externa superstitio. Alors nous avons premièrement le pythagorisme. Pythagorisme, comme vous le savez, est né en Grande-Grèce, donc en Italie du Sud. C'est un mouvement de pensée que l'on dit philosophique, une attention très importante au songe. Oh, il y a un exemple célèbre, quelqu'un avait trouvé Pythagore et lui dit « J'ai vu cette nuit mon père en songe. Hein? Comment dois-je interpréter ça ?» Pythagore lui dit « Eh bien, sache qu'il t'a rendu visite. » Donc nous avons une attention très importante par rapport au songe. Nous avons la communication avec les animaux. Hein? Saint François d'Assise n'a pas le monopole. Où
dialogue entre Pythagore notamment et une ours qui dévastait la région et que Pythagore rend à son humaine animalité, c'est-à-dire rend végétarienne. Donc, communication avec les éléments de la nature. Pythagore traverse un fleuve et le fleuve lui dit « Bonjour Pythagore !» Alors il dit « Bonjour au fleuve » parce que c'est un homme bien élevé. Nous avons le don d'ubiquité. On l'aurait vu apparaître à plusieurs endroits différents en même temps. Nous avons, dans les textes, là je rentre sur un terrain un peu plus difficile, mais il semblerait qu'apparaisse une tentative d'expérience mystique que j'appellerais l'expérience du tout-un, donc la tentative de comprendre qu'au-delà de la personne méditante, donc de l'un, qu'est la subjectivité, il y a une possibilité de relation au tout et à un moment donné une possibilité fusionnelle, donc une recherche d'une expérience mystique, d'où les fameuses phrases pythagoriciennes « allos ego hein, »,« l'autre comme moi », »,« l'autre moi », ou bien à la fin de chaque discours, les pythagoriciens disaient « autocépha », lui-même l'a dit. C'était la fin de leur discours. Pourquoi ? Pour dire « toute pensée philosophique qui s'insère dans le cadre initiatique de la société des pythagoriciens est dite par le maître ». Non pas qu'il parle dans la bouche de chaque disciple, mais parce que chaque disciple ayant fait l'expérience du tout-un, qui est la même que celle que le maître aurait faite, dès lors, il parle comme le maître. Donc il y a là un jeu spirituel qui est présent et qui est recherché par les pythagoriciens. Donc voilà, une société de type philosophique, elle se caractérise par un point, c'est qu'elle enseigne des doctrines. Dans les autres sociétés à mystère, vous ne trouverez pas de doctrine. Dans celle-là, vous avez des doctrines qui sont enseignées et qu'il faut connaître pour poursuivre dans le chemin initiatique. Parce que quand Madame Aker nous parlait des dionysiaques, ben il est clair que là-dedans, il y a eu des philosophes, il y a eu des théologiens, il n'y a pas que des gens du peuple. Mais il y a comme un interdit, Jean Maire en parlait, de parler de théologie et de parler de doctrine quand on est au sein du thiase, de l'organisation dionysiaque. Parce que c'est autre chose qui se joue. Dans le pythagorisme, c'est obligatoire et on doit connaître des doctrines pour s'élever dans l'ordre pythagoricien. Un autre exemple, Mitra. Alors Mitra est un dieu très ancien, je ne fais pas son histoire, il vient des Indes déjà. C'est un dieu qui a une caractéristique, c'est un dieu qui est un dieu ami, un dieu de proximité, c'est un dieu des contrats, on l'invoque pour les contrats importants. Entre deux royaumes, entre deux hommes, enfin entre un homme et une femme, on invoque Mitra qui garantit l'effectivité des contrats, et c'est un dieu qui défend par les armes les causes justes. Les causes justes, d'où son intérêt dans l'Empire romain, dans les légions. Ce dieu va essaimer en Iran, et puis va arriver dans l'Empire romain, peut-être, si on en croit plus tard qu'on n'en est pas sûr, il y a une grande discussion autour de cela, par les fameux pirates siliciens, qui en fait étaient infiltrés par des officiers parthes. Et lorsque ces pirates ont été réduits par Pompée, ils ont été vendus en esclavage, et ça a provoqué une sorte d'essaimage du mitraïsme dans le bassin de la Méditerranée, et donc assez curieux qu'il est possible qu'un dieu hautement ennemi de Rome soit devenu curieusement le dieu le plus ami de Rome du point de vue notamment de son ancrage dans les milieux militaires et les milieux dirigeants de l'Empire romain. Là, on a l'exemple type d'une adaptation progressive aux structures politiques de l'Empire. Et là, nous avons quand même des choses qui sont intéressantes. Nous avons trace d'un système de grades initiatiques. 7 grades, correspondant aux 7 planètes solaires, correspondant... Donc, c'est à l'époque, hein. Croyez pas que j'ignore totalement l'astronomie, mais à l'époque, donc on est dans un système solaire à 7 planètes, bon, dont acte, hein. Donc, 7 planètes solaires, 7 grades, initiatiques, 7 métaux. Et donc, quand nous voyons l'échelle de l'ascension dans la société des mitraïques et les grades respectifs, nous mesurons qu'il y avait un jeu de type alchimique qui était supposé se passer de par les interactions entre les astres, le cosmos et l'ordre mitraïque. Une identification symbolique à des animaux, dont je ne vous étonnerai pas en vous disant que vous avez des signes astrologiques, comme le lion, le scorpion, enfin, etc. D'autres types d'animaux aussi, le serpent, le corbeau, le taureau, bien sûr, qui revient en force, le chien, et des végétaux, en grand nombre, qui ont été très mal identifiés, puisque, de façon générale, les chercheurs ne sont pas des botanistes, et donc disent, il y a des plantes à gauche et à droite de la stèle, mais en regardant de plus près, on voit bien que ce n'est pas n'importe quelle plante, ce sont des plantes, en fait, qui sont attenantes à tout ce qui concerne des plantes luxuriantes, de prolifération. Et dans les plaies du taureau sacrifié, on voit surgir des épis de blé. Le taureau est le symbole d'une sorte de déséquilibre de la nature, dans le culte de Mitra, hein, Donc le taureau déséquilibre la nature en drainant à lui toutes les forces de la nature, et notamment toutes les forces humides, de sorte que tout se dessèche. C'est comme dans les mystères d'Éleusis. Exactement le même schéma. Donc la nature devient morte et déserte, et seul ce taureau circule. À ce moment-là, un dieu surgit de la roche, c'est Mitra, c'est le Mitra pétrogène. Il va s'abreuver à une source, il en reste une. Des mages, trois mages, comme c'est curieux, viennent lui rendre visite. On représente souvent Mitra parlant avec les mages, et en, au-dessus, il y a une étoile. L'étoile à huit branches, il redeviendra l'étoile du symbolisme de la naissance divine dans le christianisme. Des bergers, qui le reconnaissent comme étant le dieu sauveur. Sauter, il est sauveur. Et Mitra se met en quête du taureau, le prend, le traîne dans une grotte, le met à mort, et à ce moment-là va vivre des aventures que nous maîtrisons assez mal, notamment il va rejoindre le char solaire et avoir un banquet avec le soleil lui-même et une série d'autres divinités, réorganisant l'ordre du monde et permettant à l'humidité et à la chaleur de se combiner et non plus de s'exclure. Une chose qui devrait vous intéresser peut-être en tant qu'anthropologue aussi, un des rites les plus importants, qui devait toucher les hauts grades du mitraïsme, c'est la pluie de sang du taureau sur le récipiendaire. Alors, cette pluie de sang est capitale. On amène le récipiendaire dans une sorte de caverne construite, c'est-à-dire de trou dans le sol. On établit au-dessus un plancher à claire-voie. Le récipiendaire est vêtu d'une façon tout à fait caractéristique d'ailleurs. Il lève les mains en position d'orang. On égorge le taureau au-dessus de lui. Et il est donc sous la pluie de sang du taureau. Ce qui n'était pas un rite d'ailleurs exclusif chez Mitra. Alors c'est évidemment une façon de capter la force et la vitalité du taureau par le sang pour ajouter une dimension de puissance spirituelle plus grande au récipiendaire. Ça semble être ça la bonne explication. Un petit détail pratique, vous avez deviné que je les affectionne. Les fouilles archéologiques ont montré que ce type de lieu de culte coûte cher. Je m'excuse d'être un peu trivial, mais enfin, il faut construire la fosse, avoir le plancher, trouver l'endroit, avoir le terrain, etc. Alors, on partageait avec d'autres cultes qui pratiquaient la même chose, peut-être le culte de Cybèle dans certains cas, et on n'hésitait pas à partager les locaux entre initiés. Donc, il y a là une participation au sein des mystères initiatiques qui est assez intéressante et qui ne manque pas de susciter des questions. Je ne vous dis pas comment les chrétiens... ou plutôt je vais vous le dire quand même, comment les chrétiens ont perçu cette affaire de ce qu'on appelle le taureau bol, donc le sacrifice du taureau. Firmicus Maternus, le grand astrologue que vous connaissez sans doute, qui est toujours une grande référence en astrologie aujourd'hui dans les multiples officines que nous connaissons, et qui a tourné sa veste pour devenir un notable de l'Empire en devenant chrétien, et donc en agonissant d'injures ceux qu'il avait formés au polythéisme, nous relate la scène, évidemment, comme son enjeu est d'être bien vu par les autorités impériales. Je vous rassure, il a eu sa promotion et donc tout s'est bien passé pour lui. Il nous dépeint ça sous un aspect tout à fait négatif. Alors, je vous lis. L'énorme blessure vomit un flot de sang brûlant qui se répand en bouillonnant. Par les innombrables canaux, des perforations tombent en averse une pluie infecte. Le prêtre, enfermé dans sa fosse, la reçoit, qui expose à toutes les gouttes sa tête enlaidie. Son vêtement et tout son corps se sont empuantis. Bien mieux, il renverse sa tête en arrière, expose ses joues, ses oreilles, ses lèvres et ses narines, s'humecte les yeux même, sans épargner son palais. Il arrose sa langue jusqu'à ce que toute sa personne soit imprégnée de ce sang affreux et sombre. Oui, c'est un pontife horrible à voir, dans l'idée qu'un sang vil l'a purifié pendant qu'il se cachait dans les profondeurs indignes. Bon, après une affaire pareille, vous comprenez que l'empereur qui était chrétien ne pouvait que l'aider à se développer spirituellement. Un autre culte, Cybèle, que j'évoquais tout à l'heure, va déboucher sur le culte d'Attis. Et là, nous rentrons vraiment dans des pratiques de l'Antiquité qui sont tout de même fort intéressantes, mais aussi fort complexes. Il y a tout un calendrier attenant à ces déités. Vous avez des cultes qui sont à la fois totalement coupés du champ profane, comme Mitra. On n'entre pas dans la confrérie si on n'est pas initié. Et il n'y a pas d'extériorité par rapport à la confrérie. Mais dans d'autres cultes, il y a un calendrier à la fois profane et sacré. Et donc, si vous voulez, il y a des espèces de confréries de laïcs qui vivent autour des initiés et qui renforcent leur pouvoir dans la cité. C'est le cas pour Isis et Osiris, dont je n'aurai pas longuement le temps de parler, et c'est le cas du culte de Cybèle. Ce calendrier revêt une grande importance, populaire notamment, et dans les fêtes, on voit de nombreux fidèles venir renforcer les initiés dans les rites, et ça, c'est une série de fonctions multiples qui, comme vous vous en doutez, se distribuent autour généralement des solstices et des équinoxes et balisent l'année civile. Alors, je vous relate ce qui se passait le 24 mars, et vous allez tout de suite comprendre que je suis assez heureux de ne pas être un prêtre d'Attis à mes heures perdues. Le 24 mars était qualifié de jour du sang, le sanguis. Le grand prêtre, avec ses galles, donnait le signal d'une danse effrénée autour du pain sacré. Donc c'est la tradition, on coupe un arbre qui est le pain et qui symbolise notamment la castration d'Attis. Il se flagelle et les flagelle avec un fouet garni d'osselets au son des clarinettes courbes et des cymbales. On frappe furieusement les tambourins, on se frappe la poitrine nue à coups de ping, donc de prenant du pain. On s'entaille les épaules et les bras au couteau. On fait jaillir son sang sur l'arbre et les autels en poussant des hurlements. Une trépidation fiévreuse s'empare de ceux qui, dans l'assistance, subissent les effets de la dénutrition rituelle, ils se sont abstenus de nourriture pendant plusieurs jours pour être dans un état de purification, et de la tension des votes. C'est la danse, c'est la frénésie, c'est la transe. Et puis à ce moment-là, certaines personnes, ne savons pas lesquelles, mais se précipitent sur l'autel et se tranchent les bourses avec un tesson ou avec un silex. Tranche, c'est masculin donc, c'est comme ça qu'on devient égal, c'est comme ça qu'on devient prêtre du dieu. Ils deviennent à leur tour Attis, ça fait référence au mythe d'Attis qui procède de cette façon. Je reprendrai dans ma publication pour que le mythe soit en synoptique avec le rite. On tatoue le bas-ventre des galles après l'éviration, et dans certains cas, on leur appose une feuille d'or sur l'endroit qui a été donc coupé. Pour les anciens, le christianisme, c'est ça. C'est une religion de l'externa superstitio qui voudrait accéder au rang de religion de l'Empire. Si on renverse donc les mentalités, c'est ça qui est en jeu. Et tous les grands apologistes du 1er siècle, les anonymes, mais aussi des gens comme du 2e siècle, pardon, des gens comme Tertullien, Tatien, enfin, Justin, etc., revendiquent cette reconnaissance en disant « On reconnaît bien d'autres cultes de l'externa superstitio, pourquoi pas nous ?» et tente de convaincre des personnages importants de l'Empire qu'ils devraient intégrer ce culte dans leurs pratiques religieuses propres, donc dans leur clientèle, et donc lui permet d'avoir une certaine assise sociale. Je vous invite tout simplement à une relecture du cheminement de Paul sur le chemin de Damas, que vous connaissez tous, donc il n'y a peut-être pas besoin d'entrer dans le détail du détail, dans les actes de Luc. Et vous verrez un schème initiatique qui n'est pas tiré du judaïsme, qui est très présent, souvenez-vous. Je vous rappelle le texte rapidement en quelques mots. La chute du cheval, il est plongé dans la nuit, la main des compagnons le guide, il rentre dans une ville par la porte étroite, il loge dans une rue qu'on appelle la droite. Il s'abstient de manger et de boire pendant 3 jours. Il y a le thème du double songe, donc le même songe de la divinité, à la fois un prêtre qui s'appelle Ananias et à la fois lui-même. Le prêtre, malgré ses réticences, vient, lui impose les mains en lui donnant l'esprit, le pneuma, donc le souffle sacré, qui est aussi un concept médical chez les anciens, il ne faut pas l'oublier, et puis il le baptise, Paul devient chrétien. Le texte reflète un schème initiatique, très parlant pour les anciens, du point de vue de quelques éléments que je vous ai donnés maintenant, mais qui évidemment échappe aujourd'hui à la lecture chrétienne, totalement. Mais qui pour les anciens était très parlant et faisait de cette religion particulière une religion crédible, car s'intégrant précisément dans des pratiques locales, mais qui avait une assise forte et donc qui était digne d'être pratiquée par certains d'entre eux. C'était pas hasard, vous savez que Paul est qualifié d'apôtre des gentils. Tout le travail des communautés pauliniennes est précisément de créer cette ouverture. Il en va de même pour l'Apocalypse. Prenez chez Jean. Et là, j'insisterai avec vous sur un point qui échappe malheureusement quand on ne travaille pas dans le texte, mais qui est essentiel. Je prends juste cet exemple-là pour conclure. C'est la façon dont les traductions reflètent le contraire de ce que le texte dit. Et évidemment, dans ce qui nous intéresse ici, et dans le lexique des phénomènes que vous étudiez, c'est très préjudiciable. Alors un exemple, je prends ici une traduction qui est toujours de la Bible, celle de Marie de Sous, Jérusalem suit le même fil. c'est de l'Apocalypse de Jean, le presbytre, pas l'évangéliste, faut pas confondre les deux, du point de vue de la critique historique, qui est le suivant. J'entrais, donc c'est en Apocalypse 1, 10, j'entrais en extase un dimanche, et j'entendis une voix claironnant derrière moi, écris dans un livre ce que tu regardes et adresse-toi aux sept églises, etc. Et puis, le texte se poursuit par une sorte d'invocation à ces sept églises constitutives, donc, de son église, à lui, de sa communauté à lui, puisqu'il faut entendre Ecclésia comme communauté. Si vous regardez le texte en grec, il n'y a nulle part trace d'extasis. Nulle part. Vous avez l'esprit, qui est pneuma, qui est repris. On parle pas plus de dimanche, d'ailleurs. On parle de Kuriake Emera, le jour du Seigneur. C'est pas pour ça que c'est le dimanche, hein. Ça, c'est le traducteur qui y croit, mais le texte ne dit pas ça. C'est possible, mais ça pourra encore être le jour du Shabbat. Bon, ça va pas. Et dans la suite du texte, il n'est absolument pas question d'extase. Il est question de l'esprit qui est enlevé, qui est acheminé. Un egenomen en pneumatie. Donc je vais arrêter à cet endroit-ci, et je vous dirai donc simplement que les hommes des premiers siècles de notre ère semblaient partager du point de vue religieux l'opinion de Jean Blic dans les mystères d'Égypte, qu'il place dans la bouche d'un prêtre égyptien. Toute la philosophie des Grecs est un bruit de mots. Et dès lors, j'ai assez parlé, Monsieur le Président.
Si je peux vous poser une question, moi ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous avez dit, c'est le lien avec, je dirais, la symbolique mise en jeu par rapport à la réalité. Et parce que c'est peut-être justement l'un des points d'achoppement dans la réflexion sur les pratiques magnétiques et hypnotiques et sur ce qu'a instauré la psychanalyse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit très bien comment... Bon, il y a un effet de libération de la pensée dans la lecture symbolique dans le nouveau christianisme, Origène, Clément d'Alexandrie avec les stromates, etc., disant il faut pas lire au pied de la lettre, il faut savoir comprendre. Et en même temps, toute l'incorporation symbolique qu'a faite le christianisme, Bourgeois a bien montré comme Cybèle a été un des grands modèles de la Vierge Marie. On voit très bien Saint Jérôme, la manière dont il explique que, oui, dans la grotte de Bethléem, nous savons bien que le 25 décembre, est né Attis, mais en fait le Christ n'est pas le nouvel Attis, etc. Mais en même temps, par rapport à ce que vous donniez, précisément dans le culte de Cybèle et l'égal. Moi, je pensais à la description qu'en donne Lucien de Samosade dans la déesse syrienne, vous savez, bon, qui n'est pas plus réjouissante que celle que vous donnez. Où on a tous les poésies de Catulle, vous savez, le sur Attis, le lendemain matin, qui se réveille, justement sorti de sa transe. Et qui s'aperçoit de l'état dans lequel il est et de dire, bah, maintenant, il faut que j'assume ça toute ma vie. Et alors là, où on voit comment la lecture symbolique, je pense à la manière dont précisément va évoluer le culte de Cybèle, la manière dont Julien Laposta, par exemple, dans la Mère des Dieux, va le reprendre en expliquant qu'en réalité, bien entendu, tout ça n'est que le symbole de l'âme qui se purifie elle-même, la castration n'est précisément qu'une castration spirituelle, si l'on peut dire, qui nous défait des passions de ce monde, qui nous fait avancer, et où finalement le culte se perd, et en même temps tous les états qui allaient avec. Et où je me demande si là ne se joue pas entre cette entre guillemets épuration philosophique qui aboutit jusqu'à ce discours sur la Mère des Dieux. Ne se joue pas justement une perte qui serait de l'ordre justement de ce qui s'est joué entre les pratiques magnétiques et la psychanalyse. C'est-à-dire que tout devient symbolique. Et quand tout devient symbolique, finalement, on finit par perdre quelque chose.
Oui, votre question est très intéressante. Elle nécessiterait aussi un colloque à elle seule, mais la transition d'un monde où il y a une réelle praxis du point de vue initiatique et d'un monde où l'initiation est perçue de façon symbolique et quasiment exclusivement symbolique, c'est troublant. On essaie d'expliquer ça aussi selon des facteurs multiples, disons c'est social. Hein, par exemple, la société ne peut pas concevoir qu'un trop grand nombre de personnes s'émasculent. Hein. Autrement, elle ne se perpétue pas comme on le sait. On a essayé d'interpréter ça d'un point de vue de l'ordre. La subversion que vous évoquiez l'autre jour, on ne peut pas tolérer que la subversion dépasse certains cadres. On a essayé d'expliquer ça du point de vue du redéploiement théologique sur le fait religieux. la théologie, c'est la rationalisation du religieux. Donc en disant, à partir du moment où le théologien redéploie sa pensée sur le culte, ben, le culte dans sa force perd. C'est peut-être la raison de l'interdit dionysiaque, justement. Quand, si les philosophes s'emparent du culte, 6 semaines après, en chambre, ils font des courses folles dans les montagnes, mais plus dans les montagnes. Donc, il y a là toute une mise en place stratégique dans ces cultes qui débouche, c'est vrai, sur une spéculation qui est à la fois, comme vous le dites, allégorique, disaient les anciens.
Oui, allégorique.
Donc symbolique pour nous, parce qu'allégorie a un autre sens aujourd'hui. Une dimension philosophique et aussi une dimension esthétisante, où le geste dans le culte, la théâtralisation du geste, se substitue à la force du culte lui-même. C'est ce qui a été évoqué, je pense, par M. L. à plusieurs reprises dans ses journées. C'est-à-dire l'enfant ou le jeune garçon qui manie mal le couteau, mais qui est sous l'influence du dieu, ou du génie dans ce cas-ci. Cet enfant-là, on participe avec lui, on communie avec lui. L'homme qui est un virtuose de l'art du sabre et qui fait son numéro, ben, au fond, on le regarde comme nous regardons un spectacle dans un cirque. C'est beau, c'est intéressant, on voudrait savoir faire la même chose, mais c'est pas pour ça qu'il y a une participation forte et certainement pas un vécu spirituel. Donc il est probable qu'il y a eu dans certains de ces cultes ce type de mécanique qui s'est mise en place. Maintenant, n'oublions pas que dans l'Antiquité, moi je travaille sur un terrain tout à fait autre que l'anthropologue, nous sommes dans des cultures où le pourcentage de personnes qui lisent et qui écrivent est minime, appartiennent véritablement à des élites. Et ces personnes-là, et ce sont mes seuls informateurs. C'est pour ça que les fameux papyrus magiques et les fameuses tablettes d'exécration magique ont tant gêné les philologues du siècle dernier. On rapporte cette phrase qui aurait été dite par un d'entre eux. Pourquoi ont-ils été sortir ça du sol? Ils nous gâchent nos Grecs. Tout d'un coup, c'était Platon, c'était Aristote, c'était tout ce que nous voulions, puis tout d'un coup, on se trouve avec des gens qui veulent que leurs voisins soient impuissants et qui vont dans la respiration. C'est affreux. Bon. Mais en fait, ce monde-là, nous le connaissons très mal. Nous ne le connaissons que par des bribes, de l'archéologie, éventuellement un petit peu de l'iconographie, et nous le reconstituons. Et donc, c'est cette pauvreté du terrain à ce niveau-là qui fait qu'il est clair que nous surdéterminons le pôle intellectuel. Quand nous parlons de théurgie, nous parlons de jamblique, nous parlons de Proclus, nous parlons des oracles chaldaïques, etc., on s'y voit. Mais qu'est-ce que c'était la théurgie dans un faubourg d'Alexandrie? Je n'en sais rien.
Si on lit les mystères d'Égypte et qu'on essaie de l'appliquer, ce n'est plus uniquement de la grande intellectualité. Je veux dire, c'est tout un ensemble de pratiques, c'est tout un ensemble de rites.
Oui, mais la différence entre monsieur de...
Il y a vraiment une praxis, quand même.
Monsieur L et moi-même, c'est que eux, ils ont encore la possibilité d'interroger au moins des gens qui le font.
Ah, effectivement.
Moi, je ne sais pas ce qu'ils faisaient.
Je suis d'accord.
Parce qu'en plus, ils n'ont pas de rites. Aucun rite de l'Antiquité n'a survécu pour la bonne raison qu'on ne les écrivait pas. Nous sommes très pauvres. Donc.
On a l'impression en même temps que dans ce décollement de la lettre, précisément, c'est en même temps tout ce qui est de l'ordre de ce que le christianisme avait appelé les charismes, qui peu à peu quand même est disparaît dans un trou noir. Parce que les charismes au début, la Pentecôte, si ce n'est pas de l'ordre du charisme, précisément de la possession par l'esprit, par l'esprit qui descend, qui vous prend, qui parle à travers vous. Chez saint Paul, ça commence déjà à largement se restreindre. Un peu plus tard, au moment de ce qui va être défini comme l'hérésie montaniste, on voit très bien qu'au Montanus, l'un des grands arguments de la politique, de la polémique, je veux dire, premièrement, vous avez à côté de vous des femmes, et en second lieu, ce sont des femmes prophétesses. Donc, absolument impossible.
Alors que le christianisme, aux origines, a vécu ce type de mouvement.
Justement, donc on voit très bien comment il y a quelque chose qui se joue et qui peut-être quand même, à la certaine manière, nous avons encore les traces aujourd'hui.
Nous avons les traces et nous rendons compte quand même de certaines pratiques, parce que les textes reflètent quand même des états que nous pouvons tenter de comprendre. Je crois que ce qui nous a permis de relancer le débat, c'est l'anthropologie. Mais l'anthropologie, en mettant en scène, en décrivant des situations qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont analogues, et en nous mettant sur la voie d'une logique structurale, nous a permis peut-être de mieux investir ces phénomènes. Mais c'est je pense que c'est Lacan qui avait dit un jour, peut-être en guise de boutade, seuls les théologiens sont affranchis. Non pas parce que Lacan postulait que les théologiens ont fait moins de problèmes psychologiques que les autres, mais parce que le théologien, lui, sait qu'on n'a que le texte. Moi, je n'ai que des textes. Tout le reste, à partir du moment où je veux décoller de mon texte, je me dis qu'est-ce qu'il faisait, Ça devient mes projections, mais ce n'est plus... Je n'ai que des textes et rien d'autre. Mais il y a des choses qui ont été dites hier, par exemple, qui quand vous lisez bien l'Apocalypse de Jean, ce fameux passage qu'on met souvent un petit sous-titre, l'auteur voit le Christ. Il n'est pas question du Christ dans le texte. Il dit quoi ? Je suis tombé en pamoison. J'ai entendu une voix semblable à des grandes eaux. Et un être m'est apparu. Alors, si vous le prenez dans un contexte purement théologique, vous ne comprenez pas très bien ce qu'il veut dire. L'anthropologie et certaines pratiques encore aujourd'hui nous permettent de comprendre quel est le type d'expérience, sans doute, que le personnage restitue. Non. Saint Paul, que vous preniez comme exemple, dans une de ses lettres, la référence m'échappe, dit « Est-ce que j'étais dans mon corps ? Est-ce que j'étais hors de mon corps ? Je ne peux le dire. » Mais Luc, dans les Actes des Apôtres, répond à sa place.
Oui, non, mais ce que je veux dire, simplement, uniquement en s'en tenant au texte. Oui. Uniquement en s'en tenant au texte, c'est que lorsqu'on voit la description des cérémonies des Galles, telles que vous nous l'avez rappelé, et lorsque nous avons le discours sur la mère des dieux de Julien, on voit très bien qu'en réalité, en principe il y a une continuité puisque c'est le culte de Cybèle, mais qu'en réalité on est passé quand même de ce que, je vais me servir du vocabulaire psychologique d'aujourd'hui, on est passé d'une mise à l'acte à une interprétation purement symbolique. Pour Julien, il n'est pas question de se castrer.
Nous, dans le Cénacle,
il le dit d'ailleurs clairement.
Julien,
on doit l'entendre non pas du tout comme etc.
Mais c'est un fruit d'éducation athénienne, donc c'est un homme hautement formé.
Je suis bien d'accord, mais il y a trois siècles qui ont passé en même temps.
Mais si j'ai une minute, je vais. Si vous intéressez à des choses plus pratiques que les anciens faisaient, vous lire un petit passage. Voilà quelque chose qui se passe dans un village. Alors c'est Apulée qui nous raconte ça dans l'Âne d'Or. Hein. Donc c'est un homme qui s'est métamorphosé, etc. Peu importe. Alors il assiste à une scène curieuse. Enfin, ce sont des espèces de faux moines itinérants entre le charlatanisme et les pratiques pseudo-magiques qui circulent de village en village où ils s'enrichissent. Enfin, à leur manière. Hein. Donc c'est l'état de la pauvreté quotidienne de l'Antiquité, au fond. Et il assiste à ça. Alors voilà ce qu'il dit. Le lendemain, ils se mettent des tuniques bariolées, chacun se farde hideusement et s'enduisant le visage d'un fond de teint pâteux, en se faisant les yeux avec une pommade au noir de charbon, c'est la mode aujourd'hui, et les voilà dehors affublés de petites mitres, de robes jaunes safran, de voiles de lin et de soie. Certains ont des tuniques blanches, peintes dans tous les sens, de fer de lance, couleur de pourpre, des ceintures marquent leur taille et leurs pieds sont chaussés de chaussures jaunes. Il y a un peu le cortège, donc, hein, qui traverse l'Attique. Ils me donnent à porter la déesse, revêtue d'un manteau de soie, et eux-mêmes, les bras nus jusqu'aux épaules, brandissant d'énormes épées et des haches, se mettent à danser comme les bacchants, tandis que la flûte les excite à une sarabande de forcenés. Après avoir visité un certain nombre de masures, de chaumières, ils arrivent à la maison domaniale d'une riche propriétaire, et dès l'entrée, se mettent à pousser des hurlements discordants. Il y a de l'argent, là, alors, ils crient. Et s'élancent comme des possédés, en menant un grand bruit, puis tête baissée, tordant le cou d'un mouvement souple et continu, faisant décrire des cercles à leurs boucles pendantes et de temps en temps se mordant eux-mêmes les chairs, ils finissent par se taillader les bras avec des armes à deux tranchants qu'ils portent. Pendant ce temps, l'un d'eux se livre à des contorsions plus violentes encore, et tirant du fond de sa poitrine des halètements rapides, se donne l'air d'être rempli d'un souffle divin et simule une démence sacrée, comme si la présence des dieux n'avait pas coutume de rendre des hommes meilleurs qu'ils ne sont, et en faisaient en réalité des infirmes et des malades. Ça, c'est le quotidien, quoi. Vu par un intellectuel qui les méprise souverainement, un rhéteur formé à Carthage, et qui a fait des études à Athènes, donc c'est pas son niveau, ça.
Non, puis lui, il est du côté de l'initiation d'Isis, voilà. Donc il a un certain regard. Seulement, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on recoupe avec les textes de Lucien, avec etc., on voit quand même se profiler quelque chose.
Bien sûr, quelque chose qui touche une piété populaire, et qui est très présente et qui a été négligée par les élites totalement. L'avènement du christianisme, c'est en une grande majorité saint. C'est une religion des philosophes s'est mise en place. Je l'ai dit, c'est pas pour ça qu'ils ne participent pas à d'autres choses, mais qui est la partie émergée de l'iceberg antique que nous connaissons relativement bien. Et puis en dessous, se passait autre chose dont ils n'ont pas pris la mesure. On le voit très bien dans le contre-Cels d'Origène, par exemple. Ou chez... Julien, que vous citez justement.
Enfin, Origène, il se châtre lui-même, hein, aussi.
Oui.
Ça n'a pas été très bien accepté par son Église, mais... Je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui.
Bertrand,
cette importance de la mise en acte, ou la place de la praxis dans les religions à mystère, dans les cultes de possession, je crois que les acteurs, Les initiés en ont une conscience aiguë et ils insistent. Moi, le conseil récurrent qui m'a été donné aussi bien chez les Gnawa que dans le Candomblé et puis récemment à Mayotte, c'est toujours « tu penses trop ». Et quand on voit que tous les efforts pour institutionnaliser le chamanisme, je pense à ce que raconte Robert Tamayon à propos des tentatives qui ont été faites en Bouriatie quand il y a eu une prise de conscience ethnique et de développer, donc de construire quelque chose sur une caractéristique culturelle qui était très forte, le chamanisme, les chamans ont toujours refusé de codifier, de théologiser, d'institutionnaliser. C'est le même phénomène à l'heure actuelle en Mongolie où il y aurait des avantages énormes à ce que le chamanisme se structure, et il y a un refus des acteurs, il y a un refus de passer de la mise en acte à la symbolique. C'est ce que je voulais dire à propos de l'ayahuasca. Ce qui est assez étonnant, c'est que on dit bois le sang. Chez les Gnawa, on dit, chez les Bouriates, on dit. Et nous n'allons pas nous interroger sur les effets physiologiques de l'ingestion de sang. Pourquoi ? C'est exactement la même chose que l'ayahuasca. On dit, prends le sang, bois le sang. Et je crois qu'effectivement, le geste de boire du sang ne renvoie pas qu'à de la symbolique. En tout cas, c'est pas comme ça que les gens nous disent qu'il faut comprendre le geste de boire le sang à même l'animal. Pour reprendre l'exemple du taureau, quand même.
Moi, je crois que dans ce que vous dites, ce qui se joue, c'est la stratégie de contrôle de notre imaginaire. On ne peut pas former un homme en Occident aujourd'hui, quand je dis l'Occident, c'est évidemment sa pluridimensionnalité, si on ne lui est pas appris cette barrière que tous les peuples ont toujours eue entre invisible et un invisible, qui est notre spécificité à nous. Franchir cette barrière, on ne le fait pas n'importe comment. Et il est donc assez normal, en guillemets, qu'une société insiste sur ce point. Et toute expérience qui va de l'autre côté est sanctionnée, ou bien on développe des stratégies pour désamorcer. Une stratégie de désamorcement, c'est dire à quelqu'un, par exemple, bois le sang, il ne le boit pas parce qu'il pense à quoi ? Si je vais être malade, hein. Bon, il est en train de se faire de la médecine dans sa tête, et donc ça l'inhibe suffisamment pour qu'il ne soit plus dans la praxis, qui est une praxis d'une autre nature dans ce type de société. Et je crois que c'est ça qui se met en place, d'où le danger pour nous de confondre ces champs d'imaginaire particulier, ou de l'invisible, si vous préférez ce mot, particulier avec le nôtre propre, et de transposer sans se rendre compte que des structures données traversent ces champs. Et ça, je crois que c'est une grande difficulté. Et donc, moi, je crois que dans notre inhibition par rapport à ce type de pratique, je crois qu'on accepterait à peu près tous d'aller vivre une journée chez les Isiaques pour voir, mais chez Cybèle, c'est pas sûr. Hein. Pourquoi ? Parce que là se joue quelque chose qui est de l'ordre de notre réticence. Alors, je crois que prendre la mesure de cette réticence, c'est très, très positif. Mais l'abolir totalement en feignant qu'elle n'existe pas et qu'elle est purement un produit social et qu'on peut la lever, ça, je crois que c'est perdre la spécificité aussi de nos recherches.
Si vous voulez, moi, la question que je me posais, c'est de me dire que nous, là, dans la mesure où nous voulons bâtir, j'écarte le mot de science, un savoir organisé, nous produisons de la théorie, et que, en produisant de la théorie, forcément, il y a un résidu que la théorie, je dirais presque à la limite, tue, par rapport à l'expérience vécue.
Mais ils sont très organisés aussi, hein. Les sociétés...
Non, mais c'est par rapport à nous, hein, que je parle là.
Ah, par rapport à nous.
C'est notre problème à nous. C'est notre problème à nous. C'est-à-dire que notre savoir, d'une certaine manière, passe toujours à côté de quelque chose. Et moi, c'est ce qui me frappe dans la psychanalyse. Bon, Dieu sait, là aussi, là, on sait les liens que j'ai avec la psychanalyse, donc je la mets pas en cause. Mais le fait de produire une théorie psychanalytique, la question est toujours, et par rapport à n'importe quelle école, et qu'est-ce qui est oublié? Qu'est-ce que, pour faire théorie, finalement, on a mis entre parenthèses?
Je n'ai pas de réponse, je vous écoute.
C'est une question que je pose aussi. Hein.
Je pense que les autres...
C'est une question que je pose aussi. Je prétends pas d'avoir aucune réponse à ça.
J'aimerais beaucoup.
Clara Acker. Les chamans, ou ces gens, vous sont en train de vous dire, c'est que dès que vous théorisez, vous êtes en dehors de leur champ. Ce n'est pas possible de théoriser trop. Alors, bon, on peut imaginer des tas de choses. Moi, je suis dans le même cas que M. Baudouin. Je travaille sur la Grèce, donc je travaille vraiment sur des bribes. Et il a fallu me faire aider par beaucoup d'autres disciplines pour que j'ai le courage
de dépasser même mes préjugés inconscients. J'étais très inquiète d'arriver chez Dionysos avec tout un bagage. Je remercie le ciel et mes parents de ne pas avoir donné de cadre religieux, ce qui m'a quand même facilité la vie. Mais j'oserais vous recommander le transport, le voyage, la transe. Allez-y, et puis demandez-leur qu'est-ce qu'ils faisaient pendant leur rituel.
Je veux bien, ça ne me dérange pas. Mais ce que je ne ferai pas, c'est enseigner ça en faisant mine de le confondre avec mon matériel. Parce qu'il n'y a pas de savoir s'il n'y a pas une compartimentation du savoir. Alors je serais prêt, mais d'accord, pour dire que toute forme de pensée, même théorique, participe d'une expérience personnelle. Mais projeter une expérience personnelle que je pourrais vivre sur les anciens et l'enseigner comme étant le fruit d'une recherche, entre guillemets, scientifique, si vous voulez un autre mot, qu'importe, ça, je ne peux pas le faire. Donc ça ne m'avancera pas d'un pas dans ma recherche. Ça me donnera peut-être plus de bonheur, ça c'est tout à fait autre chose, et peut-être me rendra plus riche, plus intelligent que ces gens encore. Mais pour ma recherche elle-même, je ne pense pas que ça puisse m'aider, parce que c'est un registre radicalement autre. Vous voyez ? Et je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut être un poisson pour faire de la pisciculture.
Bien sûr.
Vous voyez, alors je crois qu'il est bien qu'un anthropologue s'investisse dans la société donnée où il est. Bon, si vous y êtes, tant mieux. Mais je pense qu'on peut très bien étudier d'un point de vue scientifique des phénomènes par rapport auxquels on a une forme d'extériorité.
Bien sûr.
Jean-Pierre Peter.
En historien, je partage totalement votre point de vue, mais en même temps, et c'est parce que nous sommes ici que j'ose le dire, mais il n'est pas indifférent à certains moments de devenir poisson. Et ce changement que ça opère en nous, que le fait de l'avoir été, ne serait-ce que quelques 5 minutes, fait que nous serons, avec les mêmes critères et les mêmes disciplines qui sont les vôtres et les miennes, nous ferons quelque chose de légèrement différent. Il y aura une vibration autre. Ça ne veut pas dire que nous serons plus dans le vrai, mais que quelque chose de ce qui était dans ce que nous ne pouvons pas percevoir, parce que c'est le passé, que nous ne l'avons pas vécu, qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de film anthropologique filmé sur les cérémonies, fait que nous aurons peut-être perçu quelque chose de plus. Rien. Mais ce qui fait que ça vibre. Là, je parle en musicien, hein, selon que... comme vous savez, deux pianistes jouent la même partition, et il y a ceux dont qui jouent les notes. Et réellement impeccable, ils ne font pas d'erreur. Je veux dire, même dans l'observation des temps, des progressions de force et de douceur. Et puis il y a ceux dont nous ne savons pas, ça continue d'être mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes extraordinaires qui, par le fait de poser le doigt d'une certaine façon sur la touche, alors qu'elle est totalement mécanique, il y a 6 transmissions, hein, fait que tout à coup le son est différent.
Mais si vous êtes...
Alors nous pouvons être des historiens dont le son est différent, c'est tout, en ayant fait l'effort de devenir poisson 5 minutes.
Mais comment voulez-vous ? Vous êtes coupé de ce monde-là. Je pourrais le faire si j'étudiais une société zen, ou enfin, moi-même j'ai pratiqué de la méditation, des choses pareilles, c'est des choses qui m'intéressent, mais je ne peux pas comparer l'expérience méditative que j'ai eue à tel endroit avec tel type de personne aujourd'hui avec ce que je projette sur Pythagore à Crotone.
Je suis bien d'accord,
je peux imaginer qu'il y a des points communs, mais je dirais à ce moment-là, je rentre dans un discours qui est de l'ordre du romanesque, de l'existentiel, du poétique, enfin, qui a sa valeur propre, de l'esthétisme, mais certainement pas, je me donne l'illusion d'un savoir.
Mais permettez-moi de vous faire le compliment suivant. L'histoire que vous écrivez et que je lis n'est pas du tout celle de votre ancêtre historien des religions, historien de l'Antiquité, à col dur et totalement positiviste. D'il y a 70 ans, et ce quelque chose, c'est le fait que vous êtes passé par cette expérience que l'anthropologie nous a donnée, que le monde d'aujourd'hui, Freud et quelques autres, et les poètes, Henri Michaud et d'autres,
ont fait
que nous sommes plus sensibles à certains des espaces, et que nous pouvons les restituer, ce que vous faites d'ailleurs. Mm-hmm. Je pense que vous faites le mieux possible avec ce que vous avez.
C'était De la transe à l'hypnose, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui un exposé de Baudouin de Charneux. Prise de son, Éric D'Agostino. Mixage, Noélie Pellegrin, Annick Champagne. Réalisation, Isabelle Lefebvre-Huel.